Voilà, déjà d'emblée, après avoir entendu les lectures de cette Eucharistie, il faut dire un mot sur, très rapide sur la deuxième lecture, où en début d'année pastorale, alors que nous rentrons de vacances, qu'on redémarre notre année scolaire, mais aussi notre travail, etc., et puis aussi pastorale dans la paroisse, eh bien, il est bon de se rappeler qu'il faut sortir de toute mondanité entre nous, et dans le regard qu'on porte les uns sur les autres, ne pas se fier aux apparences, mais vraiment, voilà, aller les uns vers les autres, sans a priori. Alors on a tous des caractères différents, il y a qui plus timide, qui moins, mais ça, et aussi, il faut apprendre à ne pas s'arrêter à cela, et ne pas croire que parce que quelqu'un semble un petit peu en retrait, il n'a pas le désir d'avoir des relations simples avec d'autres chrétiens. Et donc, ça peut être simplement l'expression d'une forme de timidité. Hein. Donc voilà, donc, peut-être ce petit point à se rappeler, à vraiment ancrer. Hein. Nous, chrétiens, nous vivons, nous voulons, je ne dis pas qu'on y arrive, mais nous ne voulons pas vivre selon des critères mondains, où on se regarde selon l'extérieur, selon les apparences, selon les vêtements rutilants, mais où on se regarde, on veut se considérer les uns et les autres comme des frères et sœurs en Jésus-Christ, et on s'accueille mutuellement. Et je pense en particulier aux nouveaux paroissiens. À chaque année, il y a un certain nombre qui arrivent à cette période, donc je leur dis bienvenue déjà. Ils auront la possibilité, c'est très important, de s'inscrire sur un cahier au fond de l'église à la fin de la messe. C'est un bien de le faire pour qu'on puisse vous repérer plus facilement. Et puis, donc, de nous accueillir mutuellement, voilà, sans différence, et sans nous contenter de rester dans nos réseaux habituels de relations. Voilà. L'évangile, maintenant, cet évangile est important, je ne sais pas comment il résonne pour vous, mais le récit que Jésus, le récit de ce miracle de Jésus est resté très, très fort dans l'Église, puisque il a carrément été intégré dans la liturgie de l'Église. Le rite de l'Ephata, hein, ouvre-toi, c'est quelque chose qu'on le refait à chaque baptême. Vous avez normalement, alors quand on est baptisé bébé, c'est un rite facultatif, donc ça c'est pas toujours fait. Mais normalement, on fait toujours ce rite de l'Ephata, et le prêtre, le ministre, touche les oreilles du futur baptisé, du catéchumène, et touche la bouche pour prier sur lui. Alors évidemment, Jésus, là, il l'a fait pour un sourd muet qui retrouve, d'ailleurs qu'il n'est pas vraiment muet, il parle mal. Hein. C'est peut-être une nuance importante, hein, parce que, pour la suite, vous allez comprendre. Et donc, il est sourd et il parle mal, et Jésus le guérit physiquement. Mais l'Église, dès l'Antiquité, puisque le rite de l'Ephata est rentré dès l'Antiquité, très tôt, dans le rite du baptême, dès l'Antiquité, a compris que Jésus nous donnait un signe spirituel, que c'était un miracle qui avait une résonance spirituelle, et qu'en fait, la sourdité, c'était la sourdité par rapport à la présence de Dieu et à la parole de Dieu qui agit dans nos vies. Et Dieu, nous savons que Dieu ne parle pas fort. Et puis la parole, parler mal, et bien nous savons que c'est tellement facile de parler mal. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est évident que c'est tellement facile, surtout quand on se rencontre, on cherche des sujets de conversation. Il y a des sujets de conversation qui se développent très très bien, c'est quand on se met à parler sur quelqu'un. Voilà, bon, par exemple. Mais voilà, on est fait plus pour louer, pour bénir, que pour juger et porter des paroles qui seraient destructrices sur nos frères et sœurs. Donc nous avons besoin d'être guéris spirituellement. Et nous savons aujourd'hui combien nous avons souci de notre santé physique, combien les progrès de la médecine, on sait maintenant, il faut faire du sport, il faut marcher une demi-heure par jour, enfin, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais on sait, et c'est presque obsessionnel parfois, hein. On est vraiment soucieux de cela, de notre santé physique, de l'entretenir. Mais nous chrétiens, nous savons que nous ne pouvons pas vivre cela, non pas que ce soit mal d'ailleurs, mais nous ne pouvons pas vivre cela sans oublier ce qui est encore plus important, la santé de notre âme. Et donc notre guérison spirituelle est on ne peut plus importante à vivre et à rechercher. Nous devrions nous donner autant de peine que nous nous donnons pour faire du sport, manger bien, dormir, je sais pas, de se détendre régulièrement pour pas faire un disjonctax psychologique, nous devrions avoir autant de soucis pour notre âme. Et pour entretenir notre âme, parce que nous savons que tout est lié pour nous. Le corps, l'esprit, l'âme, tout ça, c'est lié. D'ailleurs, c'est un des manques. Alors, on trouve plus dans les pays anglo-saxons, mais c'est un des manques dans nos pays, hein, où on sépare très clairement la question spirituelle des questions physiques et psychologiques. C'est un des manques chez nous, c'est que peu travaillent en collaboration avec intègre la dimension spirituelle dans les soins apportés aux personnes. Hein, et Dieu sait que c'est important aussi et que tout est lié, qu'on peut avoir des maladies physiques qui sont liées à des problèmes spirituels. Et de même qu'il ne faut pas toujours interpréter nos problèmes qu'on croit spirituels comme étant seulement spirituels, mais qui peuvent être aussi avec des causes physiques, des causes psychologiques, etc. Voilà, tout est lié. Et donc, il nous faut, nous, chrétiens, avoir ce souci-là de l'intégrer vraiment dans notre vie, travailler au salut de notre âme, et non seulement au salut, mais à la santé de notre âme. Être sauvé, certes, être guéri encore plus, et puis il faudrait encore aller plus loin. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle de cette guérison qu'il est venu apporter au monde, hein, et il veut guérir. Jésus ne guérit pas tous les malades physiques, par contre, il guérit toutes les maladies spirituelles. Parce qu'il est d'abord médecin des maladies spirituelles. Et donc, c'est son œuvre, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait au baptême, c'est ce qu'il fait dans les sacrements. Un autre aspect que nous apporte cet Évangile, c'est que nous voyons que Jésus ne guérit pas à distance, comme parfois des magnétiseurs ou je ne sais pas quoi font, parfois, il paraît, hein, moi j'ai jamais essayé, mais au téléphone, ils peuvent vous guérir, paraît-il. Alors, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas trop qui agit dans cette histoire. Donc c'est très obscur, occulte, comme on dit, c'est occulte. Donc tout ce qui est force occulte, il faut faire très attention. Mais voilà, il guérit à distance. Non, Jésus n'est pas comme ça, Jésus, il guérit par contact. Jésus demande la rencontre, et cette rencontre va même jusqu'à toucher. Hein, c'est ce qu'on vit au baptême, mais c'est ce qu'on vit après dans tous les sacrements. On est touché par Dieu. Touché spirituellement, mais touché aussi physiquement. Alors dans le plus haut, au plus haut point, dans l'Eucharistie, hein, on est touché par le Seigneur. Le temps que vous prenez à écouter la parole de Dieu dans la liturgie, et dans la liturgie de la messe en particulier, c'est Jésus que vous rencontrez, c'est Jésus qui parle. C'est Dieu dans les premières lectures, c'est Dieu qui parle, et dans l'Évangile, c'est Jésus qui parle. D'où le fait que cette lecture soit réservée à un ministre ordonné qui agit in persona Christi, c'est-à-dire qu'il le fait au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle. Nous rencontrons Jésus, vraiment. Quand on vient à la messe, nous sommes invités par Jésus. C'est une véritable rencontre. Et quand nous communions, pour ceux qui le peuvent, mais même quand on demande la bénédiction à la place, eh bien, c'est Jésus qui nous touche, physiquement. Et c'est important de penser que nous avons besoin de cela. Dans la médecine classique, on a besoin de rencontrer le médecin. Le médecin a besoin de nous ausculter, de nous toucher, et voire même d'ouvrir parfois des parties quand il faut opérer. Hein, donc il y a une vraie... Et bien c'est pareil pour la vie spirituelle. C'est le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est que nous prenons conscience de l'unité de l'être humain, le corps, l'esprit, l'âme, tout ça c'est lié. Et de fait, la guérison de notre âme passe par le contact physique. Notre corps est un vecteur. Nos sens participent. Dans la liturgie, c'est ce qui se passe. Nous rencontrons, nous touchons, nous sentons. Sentons l'encens, nous entendons les chants de la communauté, mais les chants des anges aussi, et la louange du Christ lui-même qui se donne au Père. Tout ça, nous l'entendons, nous le vivons concrètement, dans le temps, puisque nous prenons du temps pour cela, dans le temps, nous le vivons dans la liturgie. Et Dieu ainsi nous guérit et agit. Mais il veut aller plus loin. Je regarde quand même l'heure passer. Dieu veut aller plus loin. Non seulement il veut nous guérir, mais dans l'évangile de Jean, il nous dit qu'il veut être en communion, uni avec nous. Il veut être en communion intime. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, des apôtres, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, et comme tu m'as aimé. Il nous unit les uns aux autres, il nous unit à Dieu. Dieu désire cette communion avec Dieu. Saint Jean de la Croix parle de l'union transformante. Et frères et sœurs, il nous faut aspirer à cela plus qu'à toute autre chose. C'est le secret de la sainteté, l'union transformante. Dans l'union transformante avec Dieu, cette union, cette communion, ce contact permanent avec Dieu, où Dieu est avec nous, mais plus qu'avec nous, plus qu'à côté de nous, il est en nous et il agit en nous. Dans ce contact-là, eh bien, nous ne faisons plus des choses pour Dieu, comme malheureusement j'en fais trop souvent. C'est déjà mieux que de ne pas faire pour Dieu. Hein, mais nous ne faisons pas des choses pour Dieu, mais nous faisons des choses de Dieu, des choses que Dieu veut que nous fassions. Et c'est plus important que tout. Il vaut mieux faire moins de choses et faire celles que Dieu attend de nous. Hein, c'est vraiment le chemin que nous sommes invités. Dieu veut rentrer en communion avec nous pour que nous agissions comme le Christ. D'ailleurs, une des choses qui peuvent nous aider à réfléchir, c'est de dire comment Jésus réagit dans telle situation. Qu'aurait-il fait? Parfois, on est déçu parce qu'il n'aurait pas fait exactement ce que nous on veut faire. Mais voilà. Pour alors ça c'est un petit moyen de réflexion. Mais c'est pas l'union. Hein. L'union transformante, l'union des volontés avec le Seigneur, c'est ce qui nous rend le plus heureux, parce que nous sommes faits pour cela. Nous sommes faits pour la communion avec Dieu, pour nous réjouir de sa présence, pour vivre en lui, pour que lui vive en nous. Et donc, nous sommes invités à demander cela, que l'Esprit Saint agisse en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Ceci est ce à quoi nous pouvons espérer. Donc, Jésus veut nous toucher, nous rencontrer, nous toucher, nous sauver, nous guérir, et il veut aller plus loin. Il veut vivre en nous réellement, que nous soyons en union, en communion avec lui. C'est le chemin d'une vie. C'est le chemin de la sainteté. Cette union transformante, nous devons y aspirer. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Avec cela, nous guérissons de toutes les maladies, de tout ce qui nous encombre. Parce que même les maladies physiques prennent un tel sens que ce n'est plus un problème. Ce n'est plus le même problème, en tout cas. Voilà. Alors pour cela, il faut donner du temps à Dieu. Hein. Vous l'avez deviné, il faut le rencontrer, il faut prendre du temps avec lui. Donc la messe dominicale, évidemment, mais pas uniquement. Il faut prendre du temps pour Dieu, prier chaque jour, prendre du temps à le rencontrer, lire la parole de Dieu. Et puis, je voudrais insister sur le fait que l'adoration eucharistique que nous proposons sur la paroisse est vraiment, c'est un engagement évidemment facultatif. Donc, c'est pour cela que c'est plus facile de ne pas y aller quand c'est facultatif. Mais c'est un engagement important. On n'hésite absolument pas pour se dire on va faire du sport tous les machins, on va manger tous les jours, on va dormir tous les jours. On n'hésite pas. Seulement, la santé de l'âme, elle, ne se fait pas ressentir de la même manière. Le manque de notre âme ne se fait pas ressentir de la même manière. Et il nous faut y être sensible. C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle que de vouloir l'entretenir. Et l'adoration est un moyen de nous aider. C'est un moyen pour guérir, prendre du temps avec Dieu, prendre du temps de la rencontre, de laisser toucher, le regarder, passer du temps avec lui, consacrer du temps au Seigneur, perdre du temps pour lui, prendre du temps sur le reste. Si Jésus était vraiment présent, si nous y croyions, eh bien je pense que nous n'hésiterions pas, je crois vraiment, parce que vous êtes tous croyants. Vous n'hésiteriez pas à aller le rencontrer, à discuter quelque temps avec lui, et un peu plus qu'à la messe seulement. Eh bien, l'adoration, c'est un... Alors, la prière quotidienne, évidemment. L'adoration, c'est un moyen privilégié. Et c'est un vrai, véritable service d'Église, parce que cette adoration perpétuelle permet vraiment à ce qu'il y ait une fécondité, non pas une efficacité, dans la vie de nos paroisses, et même dans nos propres vies. Sortir de l'efficacité. Nous sommes une société d'efficacité, bon, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes touchés par cela, y compris dans notre vie personnelle et dans notre vie ecclésiale. Nous devons sortir de l'efficacité pour entrer dans la fécondité. Faire non pas des choses pour Dieu, mais faire ce que Dieu veut. Et donc, demander au Seigneur, le rencontrer, prendre du temps pour lui, perdre du temps pour lui, prendre du temps, y compris la nuit pour lui, cette prière unique, cette prière de nuit qui est unique. Jésus passe des nuits entières en prière. Alors, je vous disais tout à l'heure, il faut se demander ce que Dieu aurait fait à notre place. ce que Jésus aurait fait, bon, parfois, de fait, il prend des nuits en prière. Bon. Donc, même si nous n'en sommes pas là, prendre une heure tous les 15 jours, de nuit. Voilà, c'est bien. C'est un service d'église aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, mais c'est important de le réaliser. Hein, c'est un service, c'est l'unique lieu en Vendée où il y a une adoration perpétuelle. Hein, donc, et tout ça repose sur nos épaules, les miennes et les vôtres. Hein, c'est, voilà. Le temps, pour l'adoration de nuit, je sais que le temps, nous l'avons, mais le temps, c'est vous qui l'avez dans vos poches. Voilà. Donc, c'est vous qui pouvez le donner. Alors, moi, je peux en donner un petit peu, mais je ne pourrais pas tout faire. Je ne suis vraiment pas un exemple. Donc, voilà. Donc, demandons au Seigneur cette grâce de prendre soin de notre âme et prendre soin de l'Église aussi en prenant ce temps de la prière incessante à travers l'adoration eucharistique. Voilà. Donc, maintenant, je vais demander à ceux qui doivent distribuer les feuillets d'inscription à l'adoration, de les distribuer maintenant. Comme chaque année, hein, on fait ça une fois par an en début d'année. Donc, ceux qui sont déjà inscrits, vous pouvez quand même en prendre pour en donner autour de vous, hein, pour évangéliser, pour être missionnaire de l'adoration, hein, pour proposer l'adoration autour de vous. Et puis ceux qui ne sont pas inscrits, ben, prenez-en. Ceux qui sont mal inscrits, reprenez-en, etc. Réinscrivez-vous, enfin, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne laissez pas le Seigneur tout seul. Qui nous contraindrait un jour, qui nous pourrait nous contraindre un jour à arrêter l'adoration, ce qui serait, à mon avis, dramatique pour toute la communauté, toute l'Église de notre région. Voilà. Et donc, comme chaque fois, vous pouvez donc vous inscrire maintenant, tranquillement, et vous pouvez donc mettre ces feuilles dans la corbeille de quête qui, dans un instant. Hein, c'est une manière d'offrir du temps à Dieu. On sait qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ça a vraiment du sens aujourd'hui pour nous. Donner du temps à Dieu, c'est contraignant, c'est vraiment exigeant, surtout chez nous. Hein, donc, on peut le mettre dans la quête, hein, comme offrande. Prenez, voilà. Et puis, sinon, vous pourrez le donner un peu plus tard aussi. Hein, aussi, un moyen de s'inscrire par mail. Voilà. Voilà. Demandons au Seigneur d'envoyer des adorateurs pour... que l'adoration puisse se poursuivre. Et merci pour votre engagement à chacun. Amen.